Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce que, faute de mieux, on appelle des égéries, et plus particulièrement des égéries russes dans la civilisation française. C'est incroyable, quand on regarde un peu de près, le nombre de femmes russes, d'origine russe ou russe carrément, qui ont joué un rôle considérable dans tous les domaines. Dans tous les domaines, dans la danse, la peinture, l'écriture. Alors, je voudrais commencer d'abord par un hommage à une reine de France. Une reine de France qui s'appelait Anne de Kiev. Anna Yaroslavna, c'était la fille du prince de Kiev, Yaroslav le Sage. À 27 ans, elle épouse le roi de France, Henri Ier, petit-fils de Hugues Capet, fils de Robert le Pieux. Leur mariage a lieu en 1051. Le roi, alors, a 39 ans. Il va mourir 9 ans plus tard, en 1060. Et la reine Anne de Kiev devient régente de son fils Philippe Ier. Et cela pendant 3 ans, jusqu'en 1063. En 1063, elle se remarie avec le comte de Crépy. Elle perd toutes ses fonctions à la cour. Et ce qui est étonnant, c'est que elle disparaît à l'époque complètement des chroniques. On n'est pas sûr de l'année où elle est décédée. On n'est pas certain de l'endroit où elle aurait été enterré, mais quand même, quelque part, savoir que toute une lignée des rois de France est issue d'une princesse venue de Kiev, quelque part, c'est une bonne introduction au rôle des égéries. Une autre égérie, peu connue en France, il est pourtant plus que célèbre en Russie. C'est Anna Akhmatova, une poétesse qui a vécu l'enfer sous le régime soviétique, qui n'a jamais abdiqué. Et la plupart des historiens de la littérature sont d'accord sur un point. Au XXe siècle, en Russie, puis en URSS, il y a eu 4 poètes. Boris Pasternak, dont vous connaissez sûrement le nom, Ossip Mandelstam, Anna Akhmatova et Marina Tsvetaeva. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Anna Akhmatova à propos des égéries russes? Tout simplement parce que en 1911, elle était à Paris. Elle a rencontré un peintre au talent extraordinaire, mais pas encore très connu, qui s'appelle Amadeo Modigliani. Et Amadeo Modigliani a dessiné des portraits de Anna Akhmatova. Et plus tard, bien plus tard, la poétesse est déclarée pour Amadeo. Ce n'est pas la ressemblance qui l'intéressait, c'était la pose de l'intéressé. Malheureusement, ces dessins de Modigliani, ces dessins portraits de Anna Akhmatova sont difficilement accessibles en France. Ceux qu'on a conservés se trouvent dans une fondation en Belgique. Maintenant, une autre égérie russe, plus connue celle-là, plus connue du grand public, je veux dire. C'était une danseuse des ballets russes. Peut-être avez-vous en mémoire tout ce qu'on a raconté, écrit sur les ballets russes de Serge de Diaghilev, sur l'explosion qui a été à Paris, la représentation des premiers ballets russes avec Nijinsky, entre autres. Et dans le corps de ballet des ballets russes, il y avait une petite danseuse qui s'appelait Olga Khokhlova. Olga Khokhlova, on a beaucoup parlé d'elle par la suite. Parce que les ballets russes, à la même époque, vers 1910, intéressaient beaucoup un certain Pablo Picasso. Au point que Pablo Picasso a suivi la troupe des ballets russes à Florence, à Naples. Il a participé à certains décors, notamment pour le ballet Parade au Châtelet en 1917. Il est tombé amoureux fou de la fille d'un colonel de l'armée tsariste, Olga Khokhlova. Et ils vont s'aimer, ils vont se marier en 1918 à Paris, dans l'église orthodoxe de la rue Daru. Et puis ils vont s'installer quelque part, rue de la Boétie. Et l'époque où Olga est l'épouse de Pablo Picasso est une époque que l'on connaît bien dans la carrière du peintre, avec un retour au portrait classique. Bon, le portrait d'Olga, bien sûr, mais aussi le portrait de leur fils, en arlequin. Et lorsque Olga est obligée de quitter la troupe des ballets, Pablo la prend en charge. Ils auront un fils, Paul. Et le problème, peut-être, c'est que Olga et Pablo appartiennent à des planètes différentes. Et en 1927, lorsque Pablo rencontre Marie-Thérèse Walter, c'est la fin de leur histoire d'amour. Ils rompent en 1935. Au début, elle refuse le divorce et puis elle se résigne et elle mourra à Cannes en 1955. Mais, quelque part, elle a laissé une trace ineffaçable dans l'œuvre d'un peintre que beaucoup considèrent comme un peintre majeur du XXe siècle. Je vous propose une première pause musicale.
мне до груши. Поплыли с туманы над рекой, выходила на бригадюша на высокий берег на крутой. Выходила на бригадюша на высокий берег на крутой. Выходила, весенью заводила, простебного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Отплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. На фронт того, которого любила, а фронт того, чипися берегла.
Ой, ух ты, песня, песенка девичья, ты на ясным солнцем свет, где сада дрожать на границе, от Катюши передай привет, где сада дрожать на границе.
Après Anne de Kiev, après Anna Akhmatova, après Olga Kokhlova, je vous propose d'évoquer une figure beaucoup plus connue du monde de l'art. Une certaine Gala Diakonova. Son vrai nom, c'est Elena, et puis elle est devenue Gala. Son père est avocat. Elle est issue d'une famille bourgeoise. Sa mère écrit des livres pour enfants. Mais Gala Diakonova souffre d'une maladie qui, à l'époque, ne pardonnez pas la tuberculose. Et dans un sanatorium suisse, elle va faire la connaissance d'un jeune écrivain, un jeune homme de 17 ans, un certain Eugène Émile Paul Kindel, plus connu sous le nom de Paul Éluard. Il a 17 ans à l'époque et il écrit des vers et ils tombent fous amoureux l'un de l'autre. Elle rentre en Russie, puis quitte définitivement son pays d'origine en 1916. Elle arrive à Paris, elle est accueillie dans la famille du poète et ils se marient le 21 février 1917. Elle s'est convertie pour l'occasion, convertie au catholicisme. Ils auront une fille, Cécile, dont la mère ne s'est jamais vraiment occupée. Et Paul Éluard rejoint un groupe qui n'allait pas tarder à devenir tout puissant, le groupe des surréalistes. André Breton, Louis Aragon. Gala, l'épouse de Paul Éluard, ne fait pas l'unanimité au sein du cercle des surréalistes. Il la trouve plutôt antipathique. Son mari la trompe. Et pendant un certain temps, ils vont faire éclater le couple traditionnel. Parce que Paul Éluard a fait la connaissance d'un peintre, Max Ernst. Et petit à petit, va s'installer un ménage à trois. Paul Éluard, Max Ernst et Gala. Cela va durer plusieurs années, jusqu'à ce que Gala rencontre son véritable destin. Auprès d'Éluard, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis, elle rencontre Dali, Salvador Dali. Il a 25 ans. Il a 25 ans, il tombe fou amoureux de Gala. Gala, elle, dira plus tard, « Je suis tombé amoureuse parce que j'ai tout de suite compris que c'était un génie. » Des spécialistes ont dit que leur couple a tenu parce qu'en fait, c'était une rencontre. La rencontre de deux angoisses complémentaires. Dali, lui, lorsque il ne plaisantait pas, a dit un jour, j'ai passionnément aimé, être aimé, être dominé par Gala. En 1930, le couple va acheter le château de Pubol en Espagne. Au point que le roi d'Espagne, Juan Carlos, fera Dali marquis de Pubol. Gala agit ouvertement, elle exorcise les démons du peintre. On va la retrouver dans une quantité impressionnante de peinture, au point que parfois on se demande si un tableau de Dali sans Gala est vraiment un tableau de Dali. Et Gala va mettre en œuvre toute sa capacité pour faire connaître les œuvres de son mari. Un temps, Dali va rejoindre les surréalistes avec Luis Buñuel, le cinéaste espagnol. Mais avec son sens de la provocation, il ne cache pas son admiration pour des gens comme Hitler ou Franco. Et les surréalistes vont l'exclure impitoyablement. Au point que André Breton va l'affubler d'un surnom qui lui est resté collé à la peau, Salvador Dali, Avida Dollar. Les gens autour de Gala la trouvent dure, sans cœur, mais que serait-elle? Que serait-il devenu sans Gala? Imaginez un peu Salvador Dali sans Gala Dyakhonova. Je vous propose une pause musicale.
Степаное бурьян, знать
может, крылья сложишь посреди степей. Бьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пыли свистят. Вслед за нами родные глаза.
Après Gala Dali, une autre Égérie dont on a finalement assez peu parlé et qui pourtant, quelque part, a joué un rôle dans la carrière d'un écrivain auréolé de son prix Nobel de littérature obtenu en 1915, Romain Rolland. Romain Rolland, je vous rappelle, c'est quand même l'homme qui a écrit Jean-Christophe, que certains d'entre vous sûrement ont lu et qui les a marqués. Et puis, en 1934, il se remarie avec la veuve du prince Serge Koudechov. Elle s'appelle Maria Pavlovna Koudechova. Elle n'a pas laissé une trace inoubliable dans la littérature, elle a écrit quelques vers. Mais sans doute a-t-elle joué un rôle important dans les dernières années de la vie de Romain Rolland, qui est décédé en 1944. Ils sont restés mariés, donc, 10 ans. Et en 1935, ils vont faire ensemble un voyage à Moscou. Et peut-être les spécialistes de Romain Rolland vous en diraient beaucoup plus que je ne suis moi-même capable d'en dire. Alors, quelque part, c'est bien de donner un petit salut à cette princesse venue de Russie et mariée à un prix Nobel de littérature. Je vous propose une dernière pause musicale.
Одессу поздно вечером приехал паровод. Веселую толпой его встречать пришел народ. Гулять всю ночь мы будем, ведь веселиться будем, и все матросы вместе будут петь. Эх, Одесса, ты город мой любимый. Эх, Одесса, ты город мой родимый. Эх, Одесса, объездил я весы. Одесса, милее нет. Эх, Одесса, обезья весь свет, тебя, Одесса, милее нет. Уж скоро я вернусь, не плачь, Марусенька моя. Ведь знаешь ты, матросу, жизнь какая суждена. Сегодня повстречаешь, а завтра провожаешь, а все ж с нами вместе будем пить. Эх, Одесса, ты город мой любимый. Эх, Одесса, ты город мой родимый. Эх, Одесса, объездил весь свет. Тебя, Одесса, Одесса, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Эх, Одесса, объездил весь я свет. Тебя, Одесса, милее нет.
Je voudrais à présent vous parler de quelqu'un dont vous avez vu le portrait si vous êtes passé par le jardin des Tuileries. Dans le jardin des Tuileries, il y a trois statues de Mayol: la montagne, la rivière, l'air. La particularité de ces trois statues, c'est d'avoir eu un même modèle. Le modèle d'une jeune femme d'une beauté incontestable qui s'appelait Dina Vierny. Elle est née dans une famille juive russe. Elle se réfugia à Paris parce que en Russie les pogroms devenaient vraiment trop dangereux. Et Mayol, quand il a vu cette belle femme aux formes épanouies comme,
comme il les aime. Eh bien, il a fait venir dans son atelier, il a commencé à sculpter. Dina va devenir sa muse et son modèle. Alors, lorsque Mayol meurt, Dina est nommée exécutrice testamentaire. Elle va ouvrir une galerie de peinture, rue Jacob. Par exemple, pour ceux que ça intéresse, c'est elle qui organise rue Jacob la première exposition personnelle d'un peintre qui allait faire beaucoup parler de lui, Serge Poliakov. Bien sûr, Dina Vierny est interdite d'entrer en URSS. Et Dina Vierny va toujours lutter pour ce qu'elle croit juste. Pendant l'occupation, elle va passer en 1943 six mois à la prison de Fresnes. Faut pas oublier qu'elle est d'origine, qu'elle est d'une famille juive. Elle va continuer quand même son action dans la résistance. Elle va échapper à la mort un peu par miracle. Et en 1944, lorsque Mayol meurt, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle devient l'exécuteur testamentaire du sculpteur. Elle devient aussi une collectionneuse acharnée d'art français. Et elle va, en 1995, inaugurer la fondation du musée Mayol. Elle mourra assez tard, en 2009. Elle aura eu le temps de marquer durablement de son empreinte toute une tranche, toute une partie de l'art français. Et si un jour vous repassez par le jardin des Tuileries, où attardez-vous, ne serait-ce que quelques minutes, devant les trois statues de Mayol, les trois portraits de Dina Vierny. En voyant ces statues, en constatant à quel point les trois statues sont liées entre elles, on comprend que Mayol soit tombé amoureux fou et artistiquement fou de la petite Dina. Je vous remercie de m'avoir écouté.